Alors, nous allons continuer l'histoire du roi d'Israël, cette fois-ci avec la suite de Jéroboam. Alors, maintenant, vous devez être parfaitement au courant des dieux étrangers qui polluaient le royaume d'Israël. Et ces dieux étrangers, c'est
Baal,
Toutoui,
Képhine,
oui,
Astarté.
La triade, la fameuse triade, là, c'est...
Eh bien, c'est la vache. Elle.
Bien. Elle, le taureau, hein. Astarté.
La vache, et le loup, la lionne.
Ouais.
Et il y avait le fils Baal.
Baal, Melkar, chez les Phéniciens. Nous avons donc là ce fameux trio de dieux, hein, le père, la mère et le fils, qui ont chacun leur symbolique, qui étaient les dieux païens, qui avaient le plus d'influence sur le royaume d'Israël. Cette triade, c'est celle qui irritait le plus le Seigneur, parce que c'était celle qui corrompait et détournait les enfants d'Israël de leur père céleste, et qui les entraînait vers des dieux païens, donc vers l'adversaire, vers le diable, afin que ce peuple se détourne totalement et complètement de Yahvé, de l'Éternel, et que finalement, il reconstitue une nouvelle famille, il reconstitue un nouveau peuple avec un Dieu nouveau. Et le Seigneur, naturellement, n'était pas d'accord avec ça, il a envoyé des prophètes, il a envoyé un tas de signes, un tas de malheurs, un tas de malédictions sur le peuple d'Israël afin qu'il revienne vers le Seigneur, mais bon, ce peuple s'est laissé corrompre, séduire, et a été entraîné toujours plus loin dans la désobéissance. Et c'est donc ça maintenant qu'on va étudier. Donc on se rappelle que Jéroboam, pour des raisons politiques, a utilisé un biais religieux pour bien faire une scission entre le nord et le sud. Donc il avait mis un veau d'or à chaque extrémité du royaume pour que les gens d'Israël n'aillent plus adorer l'Éternel dans le temple qui était à Jérusalem. Parce qu'il avait peur que si les gens allaient à Jérusalem, eh bien qu'un soulèvement se fasse, que les gens de Juda influencent. Donc pour éviter qu'il y ait une sédition, qu'il y ait un problème, ben, il ne voulait plus que les gens d'Israël aillent dans l'autre pays. Et suite à cette abomination, le Seigneur s'est irrité contre Jéroboam, et puis il l'avait condamné. Parce que c'était une faute qui était vraiment une faute très lourde. Et il y a donc une malédiction qui avait été prophétisée, hein, qui avait été annoncée à Jéroboam suite à ce qu'il avait fait. Voilà. Donc c'est dans le chapitre 14 de Roi, suite à toutes les lois qu'avait enfin le roi Jéroboam, maintenant qu'un prophète qui est allé vers le roi Jéroboam, et qui lui a dit ceci de la part de l'Éternel: j'ai arraché le royaume à la dynastie de David pour te le donner, mais tu n'as pas imité mon serviteur David qui a obéi à mes commandements, et m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement ce que je considère comme juste. Tu as agi encore plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu allais fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as ainsi irrité et tu m'as tourné le dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je balayerai tous tes descendants comme on balaye des ordures jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ça, c'est la malédiction qui a été annoncée à ce roi qui avait donc détourné le peuple de l'Éternel. Nous allons maintenant voir la suite. Les descendants, le descendant de Jéroboam et les autres rois d'Israël, jusqu'à ce qu'on arrive à Élie, le prophète, l'archétype. Alors, sommes donc dans le chapitre 15. Alors, je saute l'épisode sur les rois de Juda, parce que cela, on les avait déjà fait avec les livres des chroniques. Et maintenant, nous sommes dans le livre des rois. Et dans la succession des rois qui sont énumérés dans ces livres-là, nous suivrons donc les dynasties ou plutôt les rois d'Israël, le royaume du Nord. Donc, après Jéroboam, commence le règne de son fils. Le règne de Nadab sur Israël est la fin de la dynastie de Jéroboam. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël la deuxième année du règne d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de son père et en entraînant son peuple dans le même péché. Alors, Baïcha, fils d'Aïa, de la tribu d'Issacar, conspira contre lui et l'assassina devant Gibbethon, une ville des Philistins. Cette ville, Gibbethon, c'était une ville qui appartenait dans le temps à Israël, et qui était une ville qui était consacrée aux Lévites. Les Lévites avaient des villes particulières qui étaient disséminées à travers tout le territoire, puisque les Lévites n'avaient pas de tribu qui avait une portion dans le pays. Les Lévites, ils étaient disséminés à travers tout le pays, et donc on leur avait consacré des villes un peu partout. Et une de ces villes qui était attribuée aux Lévites, c'était celle de Gibbethon, qui appartenait maintenant aux Philistins, parce que les Philistins l'avaient conquise sur les Israélites. Les Israélites voulaient reprendre cette ville, parce qu'ils considéraient que c'était à eux. Et donc, ils ont fait le siège de cette ville, et ils voulaient s'en emparer. Alors, nous sommes donc devant cette ville, en train de faire le siège. Et c'est pendant que le roi Nadab, pendant qu'il faisait le siège de cette ville, qu'il y a une conspiration qui s'est faite contre lui et qu'on a fait le projet de l'assassiner. Alors, Baécha, fils d'Aïa de la tribu d'Issacar, conspira contre lui et l'assassina devant Gibbethon, une ville des Philistins, au moment où Nadab et l'armée d'Israël l'assiégeaient. Baécha commit ce meurtre la 3e année du règne d'Asa, roi de Juda, et il le supplanta sur le trône. Quand il fut roi, il fit périr tous les membres de la famille de Jéroboam. Il n'y laissa subsister personne, massacrant tout le monde comme l'Éternel l'avait prédit par l'intermédiaire de son serviteur, Aïa de Silo. À cause des péchés que Jéroboam avait commis et de ceux qu'il avait fait commettre au peuple d'Israël, ceux qui avaient irrité l'Éternel, leur Dieu. On se rend donc compte que Jéroboam n'a pas eu une dynastie qui lui a succédé et que ça a été très rapide. À peine 2 ans après avoir pris possession du trône, son fils a été évincé et a été tué. Et tous ceux de sa famille, de ses amis, toutes les personnes influentes, ont tous été massacrés. Et ça, conformément à la parole de l'Éternel qui avait dit que puisque tu as détourné mon peuple de ma personne, puisque tu les as écartés des lois que j'avais ordonnées, je te balayerai toi aussi, comme tu m'as balayé moi, je te balayerai comme un tas d'ordures, comme un tas d'immondices. Et c'est ce qui s'est passé pendant qu'il faisait le siège de cette ville. Les autres faits et gestes de Nadab et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Asa et Baécha, rois d'Israël, furent toute leur vie en guerre l'un contre l'autre. Donc là, on se rend compte que ce roi, ça a été déjà un roi qui n'aura pas régné longtemps, mais en plus qui n'aura jamais connu la paix. Il aura été en guerre contre son voisin Juda. Il aura été en guerre contre les Philistins et il n'aura jamais connu de victoire. Il aura eu des ennemis partout, aucune réalisation positive dans toute son existence et surtout sa courte existence. Après, ça continue. Le règne de Baécha sur Israël et le prophète Jéhu. La 3e année du règne d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Aïa, devint roi de tout Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit Ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant Israël dans le même péché, l'Éternel s'adressa au prophète Jéhu, fils de Hanani, avec le message suivant pour Baécha. Je t'ai tiré de la poussière pour t'établir chef de mon peuple, Israël. Mais tu as imité l'exemple de Jéroboam, tu as entraîné mon peuple Israël dans le péché et tu m'as ainsi irrité. C'est pourquoi je vais te balayer, toi et ta famille. Je vous traiterai comme la famille de Jéroboam, fils de Nébat. Ceux de la maison de Baécha qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens. Et ceux qui mourront dans la campagne seront déchiquetés par les rapaces. Les autres faits et gestes de Baécha, ses réalisations, ses exploits, sont cités dans les livres des annales des rois d'Israël. Quand il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enterré à Tirza, et son fils Éla lui succéda sur le trône. La parole de l'Éternel lui avait été adressée à lui et à sa maison par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, pour deux raisons. D'une part, à cause de tout ce qu'il avait fait de mal aux yeux de l'Éternel, l'irritant ainsi par ses actions, exactement comme la famille de Jéroboam, et d'autre part parce qu'il avait exterminé les membres de cette famille. Donc là, on se rend compte que ce roi n'a rien appris, n'a rien retenu de ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs, et il a fait exactement la même chose, ne tenant absolument pas compte des événements, ne tenant absolument pas compte des paroles des prophètes. Et puis, ici, à la faute qu'il a faite, on rajoute une deuxième. C'est deux points qui lui sont reprochés. C'est-à-dire, une fois, il a reproduit les erreurs de Jéroboam, c'est-à-dire il a éloigné les gens de l'Éternel. Et la deuxième, c'est qu'il a tué son roi. Or, si on analyse la chose, on se rend compte que le Seigneur avait prophétisé que Jéroboam, sa descendance, allait être exterminée et allait être balayée comme des ordures. Donc on aurait pu s'imaginer que la personne qui allait être l'acteur, le réalisateur de cette prophétie, finalement c'est quelqu'un qui allait exécuter un ordre. C'est comme s'il allait servir le Seigneur. Le Seigneur ne le prend pas du tout comme ça. Le Seigneur considère ça comme une faute, parce que cette personne, finalement, s'est élevée contre son roi, s'est élevée contre l'autorité. Et pourquoi ? Mais parce que Jéroboam, c'est quelqu'un qui a été investi par le Seigneur. Si on se rappelle l'épisode de David et de Saül, David n'a jamais touché à Saül pour une raison qui était simple. C'est qu'il considérait Saül comme étant quelqu'un qui a été oint par l'Éternel. Et parce qu'il a été oint par l'Éternel, il était intouchable pour lui. C'était au Seigneur de régler ce problème, et ce n'était pas à lui de le régler. Bon, là, nous sommes dans le même cas de figure. Nous avons donc un roi qui a été désigné par le Seigneur. Jéroboam, à l'époque, avait été désigné par le Seigneur. Donc son successeur, il suivait. Il était de sa lignée, donc à quelque part, il était aussi loin par le Seigneur. Mais ces gens ont fait le mal, et puis parce qu'ils ont fait le mal, ils allaient être exterminés. Mais la personne qui a pris cette initiative ne l'a pas fait dans un sens où elle a recherché le conseil de l'Éternel et elle a agi pour servir le Seigneur. Cette personne a agi pour se servir soi-même, pour servir ses propres intérêts. Donc dans ce sens-là, l'Éternel n'avait pas sa place dans sa décision. Il n'a pas agi pour faire quelque chose, pour satisfaire le Seigneur. Il n'est pas venu vers ce roi en disant « parce que tu as outragé le Seigneur, parce que tu t'es éloigné de ses lois, parce que tu as fait le mal, eh bien maintenant j'extermine ta race ». Pas du tout. Il a dit « toi je vais t'éliminer ». Je vais prendre ta place et je vais faire la même chose que les autres. Donc il a commis une double faute. Il a commis une faute parce qu'il a persévéré dans les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, mais en plus, par-dessus le marché, il a éliminé quelqu'un que le Seigneur avait mis à cette place-là. Même s'il a fait le mal, ce n'était pas à lui de le faire. Et ça, c'est une double peine qui s'est accumulée sur sa tête, à cette personne-là. Après, donc ce roi, il a régné pendant un certain temps en Israël, mais ses actions ont si peu d'importance qu'elles ne méritent même pas d'être nommées dans la parole de Dieu. C'est la seule chose qu'on retiendra de lui, c'est qu'il a fait le mal. Il a fait le mal de la même manière que Jéroboam. Donc ça veut dire qu'il a laissé à chaque extrémité du royaume les veaux d'or, et puis qu'il a continué ce culte païen, et puis a détourné le peuple du Seigneur. Tout le reste n'a aucune importance. Après, on continue avec son fils. Le règne d'Éla sur Israël. Fin de la dynastie de Baécha. La 26e année du règne d'Asa, le roi de Juda, on se rend compte que par contre, de l'autre côté, le roi de Juda, lui, ne bouge pas. C'est toujours encore le même, alors qu'en Israël, c'est les rois qui succèdent à la vitesse grand V les uns derrière les autres. Et la fille de Baécha devint roi d'Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. C'est à peu de choses près la même configuration que la dynastie précédente. Avec Jéroboam, il avait un fils. Jéroboam a régné un certain temps en Israël, et puis il a un fils qui a régné très peu de temps. Là, c'est la même chose. Donc là, nous avons donc Baécha, qui a régné pendant 24 ans, qu'on peut considérer quand même comme relativement long, et puis derrière, il a un fils qui, lui, ne va pas régner pendant longtemps, il régnera juste pendant 2 ans. Son officier, Zimri, qui commandait la moitié des chars de guerre, complota contre lui. Pendant qu'Éla était à Tirtsa, buvant comme un ivrogne dans la maison d'Artsa, l'intendant du palais royal à Tirtsa, Zimri, survint et le frappa à mort. Cela se passa la 27e année du règne d'Asa, roi de Juda. Zimri lui succéda sur le trône. À peine était-il devenu roi qu'il fit périr toute la famille de Baécha, sans épargner un seul homme, enfant ou adulte, dans sa parenté ou parmi ses partisans. Zimri détruisit ainsi toute la maison de Baécha comme l'Éternel l'avait annoncé contre lui par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Tout cela arriva à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Éla avaient commis, ainsi que ceux dans lesquels ils avaient entraîné Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Les autres faits et gestes d'Éla et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Donc là, on se rend compte qu'on est dans le même cas de figure que ce qu'on avait déjà connu dans le temps. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc les gens qui s'éloignent de l'Éternel ne sont plus protégés, ne connaissent plus la bénédiction, ne connaissent plus la paix. Ils ont des ennemis à l'extérieur, mais ils ont aussi des ennemis à l'intérieur. Et tout ce qui se passe à l'intérieur n'est pas de la volonté du Seigneur. Là, on comprend vraiment bien que le Dieu qui règne sur ce pays, eh ben, c'est plus le Seigneur, c'est plus l'Éternel des armées, c'est plus Yahvé Shabbat, c'est plus le Dieu d'Israël. Nous avons donc là un Dieu étranger qui a pris possession du pays et qui désormais fait ce qu'il veut, comme ça lui plaît, dans ce pays-là. Donc nous avons donc des gens qui là se succèdent et qui n'ont plus de lien avec le Seigneur. Le seul lien qu'il y avait encore en Israël, eh bien, c'était le roi qui avait été oint en son temps, du temps de Salomon, qui était Jéroboam. Et depuis, il n'y a plus personne qui a été oint en Israël. Ce sont des arrivistes, ce sont des opportunistes, ce sont des crapules. Ce sont des gens très ambitieux qui, comme des loups, rôdent autour d'une proie et dès qu'il y a une opportunité qui se présente, hop, on saute dessus, on élimine l'adversaire et on prend sa place. C'est une république bananière avec des coups d'État permanents où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, n'importe quand et n'importe comment. Et c'est le propre même des nations. c'est un peu ce qu'on vit autour de nous. C'est un jour t'en as un qui règne, un autre jour t'en as un autre qui règne, et puis chacun vient avec sa petite politique, chacun vient avec sa petite ambition, et finalement celui qui s'impose, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus méchant. Celui qui est le plus ambitieux, celui qui est le plus agressif, c'est pas celui qui a une bonne âme, c'est pas celui qui est gentil, c'est pas celui qui a un beau projet, qui va essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent au milieu du peuple et puis que les gens soient heureux. Pas du tout. Celui qui s'impose, c'est celui qui n'a aucune morale, c'est celui qui n'a aucune pitié, c'est celui qui fait abstraction de toute conscience humaine et puis qui n'est guidé que par une seule chose, l'ambition, la soif du pouvoir. Je veux être chef, c'est moi qui veux y arriver. Et tout obstacle qui peut se mettre entre moi et mon ambition, eh bien, je l'élimine. Et s'il y a un homme qui m'empêche d'accéder au trône, qui m'empêche d'accéder au pouvoir, eh bien, je suis là, je le massacre. Et puis je détruis tout. Je détruis pas seulement cet homme-là, mais aussi tous ses amis, comme ça, au moins je suis sûr que après ça, je serai tranquille et qu'il n'y aura plus personne qui osera s'en prendre à moi. C'est bizarre, hein, c'est un petit peu ce qu'on vit actuellement. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on ne tue plus les gens, mais on les assassine politiquement. Toi, tu t'es dressé contre moi, attends, maintenant je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et puis, vas-y, que je t'en mets, et que je t'en remets, et que je t'en remets encore. Et puis, comme ça, tu terrorises en même temps tous les autres qui n'osent plus s'élever contre toi et qui ont peur. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit du prédateur qui agit uniquement pour sa propre petite personne, qui agit que pour lui. Là, la loi de l'Éternel, les considérations du Seigneur, qui lui veut exalter les vertus de l'âme humaine, qui veut exalter les vertus de l'amour, hein, de la justice, du droit, du respect des autres, ben, tout ça c'est bafoué. Donc là, on se rend vraiment compte qu'on est maintenant dans le royaume du mal et dans le royaume de l'adversaire. Le Dieu d'Israël, à partir de ce moment-là, c'est Satan. C'est le diable qui gouverne et c'est lui qui sème le chaos dans ce pays. On peut faire des correspondances hein, avec notre monde contemporain. Quand, au Moyen-Âge, quand c'était l'Église catholique qui faisait la pluie et le beau temps dans le pays, c'était des guerres perpétuelles entre tous les rois. C'était le chaos total et on se déchirait de tous les côtés. Quand la réforme est venue, et puis que les protestants se sont élevés contre l'autorité du pape, il y a deux blocs qui se sont créés, c'est-à-dire les catholiques d'un côté et ceux de la réforme de l'autre. Et ils se sont fait la guerre entre eux. Parfois les uns gagnaient, parfois les autres gagnaient. Et puis à un moment donné, il y a un espèce de partage qui se fait, et on peut globalement dire que dans le nord du pays, enfin dans le nord du continent plutôt, le protestantisme s'est plus ou moins imposé, et que dans le sud, c'est le catholicisme. Donc nous avons donc les pays latins, hein, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont restés dans le giron catholique, et puis dans le nord, l'Allemagne hein, d'aujourd'hui, la Suisse, les Pays-Bas, puis plus tard l'Angleterre, bon l'Angleterre c'est encore un cap à part, mais ces pays-là se sont détachés du catholicisme et on connaît une trajectoire qui était totalement différente. On s'est rendu compte que ces pays ont aussi connu une prospérité qui était différente. Ces pays-là ont très vite connu une croissance et un enrichissement qui était beaucoup plus rapide que dans le sud du pays. C'est dans ces régions-là hein, que s'est développée très rapidement l'industrie, s'est développée l'éducation, puisque l'Église catholique a tout fait pour que l'éducation, la connaissance, la diffusion de la connaissance ne puisse pas se faire, enfin, qu'il puisse conserver et garder le peuple dans l'obscurantisme. Ah ben, dans les pays du Nord, ah ben, on a inventé l'imprimerie, et la toute première des choses qu'on a imprimées, c'était la Bible. Et très rapidement, la Bible s'est répandue et tout le monde pouvait la lire. Et ça a vraiment définitivement coupé les ponts avec l'Église catholique, parce qu'une fois que les gens ils ont pu avoir accès directement à la parole, pour la lire et la comprendre dans un langage qui était accessible, les gens se sont très vite rendus compte que l'Église catholique bernait le monde et puis qu'il les entraînait dans des voies qui n'étaient pas du tout des voies qui étaient inscrites dans l'Évangile. À peu de choses près, on retrouve le même schéma que ce qui s'est passé en Israël. Ceux qui marchent avec l'Éternel connaissent une certaine stabilité et prospérité, et ceux qui marchent avec un Dieu étranger connaissent la guerre, connaissent la misère, connaissent la sédition, les trahisons, toutes ces choses-là. Et chez nous, en Europe, c'est exactement la même chose. On a connu toutes ces choses-là, on a connu avec des variantes, hein, et puis des choses qu'il faut adapter avec le contexte et avec l'histoire du moment, mais si on met ça en parallèle, on se rend compte que ça se superpose à peu de choses près. Dans l'esprit du moins, ça se superpose. Bien, nous allons donc continuer avec le règne de Zimri sur Israël. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri devint roi pour 7 jours à Tirza. L'armée d'Israël était alors en train d'assiéger la ville philistine de Gibbéton. Donc on se rappelle que c'était le roi précédent qui était en train d'assiéger cette ville. Zimri est venu, l'a tué, a exterminé tout le monde et a pris sa place. Mais bon, ils étaient toujours encore en train d'assiéger la ville. Ça n'avait rien changé. Quand les soldats apprirent que Zimri avait comploté contre le roi et l'avait assassiné, ils proclamèrent aussitôt leur général Omri, roi d'Israël, dans le camp. Ça se complique. Alors, celui-ci et toute son armée quittèrent Gibbéton et partirent assiéger Tirza. Lorsque Zimri vit que la ville était sur le point d'être prise, il se retira dans le donjon du palais royal, mit le feu au palais et périt dans l'incendie. Voilà, ça devient vraiment la République bananière dans toute sa splendeur, avec des potentats locaux qui se succèdent au rythme des prises de palais, hein, des attentats et puis des coups d'État. Ça devient du gros n'importe quoi. C'est-à-dire là, c'est la meute de loups qui se dévore entre eux. Quoi. Alors là, c'est que le plus fort gagne. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'ordre, il y a l'Éternel, on s'en fiche. Les lois de l'Éternel, ça c'est des vieilles lunes. Et c'est la loi de la jungle. C'est vraiment devenu des animaux. Et ils se conduisent comme tels. Zimri mourut donc à cause des péchés dont il s'était rendu coupable en faisant ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant le peuple d'Israël dans le même péché que lui. Les autres faits et gestes de Zimri, ainsi que les détails du complot qu'il avait organisé, sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Il n'y a certainement pas grand-chose à inscrire là-dedans. Quand on règne pendant 7 jours... Il est clair, on ne va pas laisser une trace indélébile derrière sur lui. Alors, les tribus du Nord se partagèrent en 2 parties. Une moitié du peuple se rallia à Timni, fils de Ginat, pour le faire régner. L'autre moitié se déclara pour Omri. Les partisans de ce dernier l'emportèrent sur ceux de Timni, fils de Ginat. Timni mourut et Omri devint roi. Donc là, on se rend compte que à un moment donné, pendant une courte période, le royaume d'Israël était dans un chaos total. C'était du gros n'importe quoi. C'était à la foire d'empoigne et que le meilleur gagne. Il n'y avait plus aucune règle. C'était la loi de la jungle où chacun faisait ce qu'il voulait. Donc c'est là qu'on se rend compte aussi que les lois, que les règles que nous enseigne l'Éternel sont très importantes. Parce que si on les suit, si on les respecte, eh ben, ces règles de conduite nous conduisent dans la paix, nous conduisent dans l'ordre, nous conduisent dans la bénédiction du Seigneur. Et là, on se rend compte que si on s'éloigne de ça, c'est le chaos, la guerre, la ruine, la peine, les pleurs, les cris. Le fait d'obéir au Seigneur, c'est aussi un gage de stabilité. On sort de la loi de la jungle, on sort du chaos. On sort pour rentrer dans quelque chose de cohérent. On sort pour rentrer dans la paix du Seigneur. Le Seigneur dit, je suis comme un bouclier. C'est pas uniquement un bouclier contre l'adversaire. C'est aussi un bouclier contre les ennemis de l'intérieur, contre tous ces gens, ces séditieux, ces ambitieux, qui se lèvent et qui sont en permanence derrière vous, dans votre dos, prêts à vous sauter dessus, à vous assassiner, à prendre votre place ou à semer le chaos. L'Éternel, quand il est votre Dieu, si vous êtes un bon chef, si vous êtes respectueux de ses ordonnances et de ses lois, il vous protège aussi des ennemis de l'intérieur. Alors le pays devient stable, le pays est en paix. Et les gens bénéficient de cette paix. On se rend compte que du temps de Salomon, dans les Écritures, il est marqué que Salomon, c'était finalement un roi qui était très dur. Mais à l'époque, l'argent coulait à flot, les gens étaient heureux, on pouvait acheter ce qu'on voulait parce que de l'eau on avait en masse, les gens vivaient vraiment dans le luxe, les gens vivaient dans la satiété, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, ils mangeaient à leur faim. On se rend compte qu'il y a une différence énorme entre une personne qui marche dans les voies de l'Éternel et ceux qui s'en détournent. Parce qu'après ça, c'est toute une chaîne d'événements qui se met en place. L'homme qui suit les lois de l'Éternel, c'est un homme qui transforme son environnement, qui le modifie, qui le fait rentrer dans un nouvel univers, dans une nouvelle sphère. Une sphère dans laquelle le Seigneur est présent et où la bénédiction peut se répandre. À partir de ce moment-là, les anges du Seigneur se mettent en action et transforment notre monde afin qu'il soit en conformité avec la parole de Dieu et puis que ce monde soit agréable et puis que pour nous, nous puissions y vivre en paix et dans la joie avec le Seigneur. Que nous puissions le servir librement, que nous puissions le servir avec joie. Parce que si on est dans des périodes de troubles et de guerre, il est clair qu'on ne peut pas aller sereinement vers le Seigneur. Alors le Seigneur, si on marche avec lui, il crée les circonstances pour qu'on le serve dignement, qu'on le serve avec joie. Le règne d'Omri sur Israël, la 31e année du règne d'Asa, toujours roi de Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna 12 ans. Il régna d'abord 6 ans à Tirsa, puis Zilach acheta à Shemer la colline de Samarie pour 6000 pièces d'argent. Il la fortifia et construisit une ville qu'il appela Samarie d'après le nom de Shemer, l'ancien propriétaire de la colline. Omri fit ce que l'Éternel considérait comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Donc là, nous avons un champion. C'est un champion qui réussit à battre Jéroboam. On arrive déjà à une vedette qui était devenu l'étalon sur lequel se calaient tous les successeurs pour irriter le Seigneur et pour se détourner de lui et faire ce qui est mal. Et là, on en a un qui vient et qui se dit, attends, il y a un recours à battre, le matelé à la tâche et réussit l'exploit de faire pire que Jéroboam. Omri fit ce que l'Éternel considérait comme mal. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam, fils de Nébat, il entraîna le peuple d'Israël dans le péché en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel, leur Dieu, par leurs idolâtries. Les autres faits et gestes d'Omri, ainsi que la vaillance dont il fit preuve, tout cela est cité dans le livre des annales des rois d'Israël. Lorsqu'il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enseveli à Samarie, et son fils Akab lui succéda sur le trône. Voilà, donc nous avons un champion qui bat le record de Jéroboam, nous allons voir maintenant le fruit que porte cet arbre. Et là, comme il a fait très fort, c'est au travers de son fils qu'on va pouvoir mesurer les dégâts faits par le peuple. Et les dégâts sont immenses. Et par rapport à ça, il fallait donc une réaction qui soit à la hauteur du péché d'Israël. Il fallait donc une contrepartie, un contre-pouvoir qui soit à la mesure des ambitions des rois d'Israël, des péchés des rois d'Israël, de l'idolâtrie des rois d'Israël. Et là, on a vraiment touché un sommet. Avec Omri, ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, les voies qu'il a suivies, eh ben, la corruption était telle dans le pays, le péché était tel dans le pays, qu'il fallait, à partir de maintenant, un homme d'exception pour arriver à tenir tête et à faire face à cette hostilité, à ce pays qui s'était maintenant totalement et complètement détourné du Seigneur, qui n'avait plus rien à voir avec le Dieu d'Israël, et que donc, il allait falloir frapper très fort pour que le peuple se souvienne, parce que maintenant on est déjà dans des générations qui ont passé, afin que le Seigneur se souvienne, afin que le peuple se souvienne de ses racines, se souvienne qu'un jour, il y avait un autre Dieu dans ce pays, et qu'il y avait d'autres lois, d'autres règles, et d'autres rois qui étaient beaucoup plus justes que ces gens-là, beaucoup plus purs que ces gens-là, que tous ces arrivistes, ces meurtriers, ces criminels qui actuellement dirigeaient le pays. Et donc, à partir de maintenant, il y a une guerre spirituelle qui va se mettre en place entre le fils d'Omri, le champion de l'idolâtrie et du péché en Israël, et le serviteur du Seigneur qui va venir pour lutter contre cet homme-là et contre cette idolâtrie. Le règne d'Akab sur Israël. La 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Voilà. Ça monte chaque fois un cran. On va voir avec Akab. Maintenant, l'histoire va se développer parce que on a vu qu'avec les rois précédents, on survolait le problème. C'était résumé. Hein. C'était, celui-là il a fait mal. Et puis il est mort, et puis on passe au suivant. Et puis le suivant, ben c'était encore pire. Mais on n'explique pas ce qu'il fait. On dit, il est mort, et puis il y en a un autre qui est venu, il a été remplacé, il y a eu une sédition, et puis un coup d'État, il a été renversé, et puis l'autre, c'était encore une fois pire. Mais maintenant, avec Akab, le livre s'ouvre, et on va voir les détails. Et à partir de maintenant, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se pratiquait dans le pays. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Là, on va se rendre compte que les gens ne se contentaient pas uniquement d'aller adorer un vaudour, c'était devenu pire que ça, bien pire que ça. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, Akab épousa Jézabel, fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et se prosterner devant lui. Alors là, déjà rien que dans les noms, nous avons donc une femme, Jézabel, qui est fille d'Ethbal, le roi des Sidoniens. Une courte phrase, mais qui en dit long. Alors les Sidoniens, c'est le pays à côté, les Philistins. Bon, la dernière fois, on avait parlé des fameux dieux, la fameuse triade, et en fait, on se rend compte que le roi Akab avait scellé une alliance avec les Philistins, avait épousé la fille du roi d'à côté, et que cette fille, son nom, nous enseigne déjà sur ce qu'elle faisait. Une des traductions du mot Jézabel, ça peut être qui sert Baal. Donc on peut penser qu'elle était prêtresse de Baal, que c'était une femme qui était dédiée à ce dieu, et qui le servait quand elle était chez les Philistins. Donc, le roi Akab, en mariant cette femme, n'a pas simplement scellé une alliance politique, mais aussi scellé une alliance religieuse. Il a donc fait venir une prêtresse d'un dieu étranger dans le pays, et ce faisant, cette femme n'est pas venue uniquement avec ses colliers, ses perles, et puis ses habits, elle est venue avec tout son culte et tout son clergé. Elle a ramené toute la semaine avec. Tout ça, c'est venu dans le pays d'Israël. Et elle a donc continué de servir son Dieu. Et non seulement elle a continué de servir, mais elle a encore entraîné son époux avec lui. Ce faisant, c'est tout le pays qui devait servir Baal. Parce que si le roi servait un dieu étranger, tous les sujets étaient obligés de faire avec. Et donc cette alliance avec les Sidoniens, avec la ville de Sidon, en fait, c'était une rupture totale, complète et définitive avec le passé d'Israël. À partir de maintenant, Israël a totalement et complètement basculé dans l'idolâtrie et a changé de Dieu. Le roi d'Israël adore un autre Dieu, sa femme est une prêtresse d'un Dieu étranger, les alliances sont faites avec un pays étranger. Israël a définitivement et complètement basculé. N'a plus rien à voir avec son passé et avec le Seigneur et avec les lois de l'Éternel. Et Baal, c'est un nom, le nom de son père, du roi de Sidon, ça veut dire qu'il est Ser Baal, qui est comme Baal, donc qui s'identifie à lui. Bon, il faut savoir que le mot Baal, c'est un nom qui est générique, qui veut dire maître, qui veut dire roi, qui veut dire celui qui dirige, celui qui commande. Donc, le mot Baal, ça peut être un mot générique lorsqu'il s'adresse à un dieu. Par exemple, El Baal, le dieu le plus important, le dieu premier du pays des Philistins. Donc on peut dire que le dieu El, c'est le maître suprême qui dirige. La même chose, on peut le dire d'un roi, d'un maître de maison ou simplement d'un mari. Et donc là, on se rend compte que le roi de Sidon, va se présenter comme étant le maître de ce pays, maître qui était aussi, qui s'identifiait et qui se présentait comme étant un dieu. Le dieu de ce pays qui règne par la volonté de Baal, qui est comme Baal. Et sa fille sert ce dieu. Sa fille est au service de ce dieu. Donc c'est vraiment une famille qui fait un avec le dieu des Sidoniens, qui le représente par leur propre personne. Et Baal avait encore cette caractéristique, c'est qu'il avait tué son frère pour prendre sa place. C'est donc aussi un meurtrier, et c'était dans sa famille un séditieux, parce que pour accéder au trône, il avait éliminé celui qui le gênait, et celui qui normalement aurait dû être roi dans ce pays-là. Et c'est de cette famille que Akab est allé chercher une femme pour l'épouser, faire une alliance, et puis, après ça, vivre avec ces gens-là. Donc, Israël, en ce temps-là, vivait avec des idolâtres, vivait avec des meurtriers, vivait avec des dieux étrangers, avait instauré des cultes étrangers dans le pays. Donc, on peut se rendre compte que, uniquement dans la première phrase, maintenant, qui engage un petit peu l'histoire du roi Akab, on est déjà rentré très profondément dans le péché, on est rentré très profondément dans les voies qui mènent à la perdition. Donc le roi Akab, c'était un sommet dans le péché, c'était un sommet dans l'idolâtrie. Là, on peut vraiment dire que, à partir de ce moment-là, Israël a touché le fond et que ce pays était complètement irrécupérable. On ne pouvait plus rien faire. À ce moment-là, les prophètes classiques, les prophètes habituels qu'on a l'habitude de voir, qui viennent et qui annoncent la volonté du Seigneur, n'avaient plus d'influence. Si quelqu'un venait en Israël et disait « Écoutez, j'ai un message de la part du Seigneur », on ne l'écoutait plus. Au pire, on les tuait et puis on les massacrait en disant « intéresse plus. Hein. Notre Dieu qui est aujourd'hui dans le pays, c'est plus l'Éternel. Notre Dieu, c'est Baal. Donc vous, allez faire votre cirque à côté, dans le pays à côté, chez votre Dieu là-bas, chez Judas. Mais nous, ici en Israël, on a tourné la page, à partir de maintenant, Nous avons nos propres divinités qui s'occupent de nous, qui nous protègent, qui nous apportent la prospérité. C'est fini, c'est terminé. On n'a plus rien à voir avec le Seigneur. Donc, là, on a dressé le décor. Le Seigneur s'adapte. Vu qu'on est en territoire conquis et totalement hostile, puisque les choses sont ainsi et que les hommes l'ont voulu ainsi, que le combat commence. Puisqu'on ne peut plus s'entendre, puisqu'on ne peut plus se parler, et puisque les liens sont rompus, à partir de maintenant, ça va être la guerre. Et là, je parle de guerre spirituelle. Donc à partir de maintenant, quand un prophète va venir, ça ne sera pas pour faire de la figuration, ça ne sera pas pour parler, ça ne sera plus pour discuter. À partir de maintenant, on va agir. Donc, c'est une nouveauté. Nous avons donc eu des prophètes jusqu'à présent qui étaient la voix du Seigneur. La voix du Seigneur qui appelait le pécheur à se repentir, à venir vers l'Éternel. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Nous avons en face un ennemi, et cet ennemi, il va falloir le combattre. Donc, on change, d'habitude, on va changer, les manières vont changer. Le Seigneur va changer de méthode. Alors, je continue en mettant en ambiance. Le roi des Sidoniens, Akab, alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Samarie était devenue la capitale d'Israël, devenue la ville la plus importante, c'était le siège du royaume, c'était là où le roi habitait, et il en a fait sa capitale. Et dans cette capitale, il a donc construit un temple en l'honneur du dieu Baal. Alors souvenons-nous qu'on avait mis des baux d'or aux extrémités du royaume pour que le peuple n'aille plus à Jérusalem. Mais là maintenant, on concentre vers le roi, dans la capitale, dans une nouvelle capitale, un temple. On construit un temple, un dieu nouveau, et toutes les personnes du royaume, à partir de maintenant, devront aller vers la capitale pour rendre ce culte au dieu Baal. Donc, il y a vraiment une césure, il y a vraiment une coupure qui s'est faite avec Juda. C'est-à-dire, avant, il y avait une capitale, une ville, qui était considérée comme la ville sainte, le siège du dieu de tout Israël, c'est-à-dire Juda et les 10 autres tribus, et que la capitale spirituelle de tout ce pays, c'était Jérusalem. Et c'était là que tout devait se passer, c'est là que le culte devait être rendu. Avec la coupure qui s'est faite du temps de Jéroboam, Jérusalem restait toujours encore la capitale, avec son temple. Mais pour éviter que les gens y aillent, on avait mis des barrières spirituelles, on avait mis des dieux à chaque extrémité, on disait, vous n'irez plus à Jérusalem. Mais là maintenant, on est allé un cran au-dessus. On a créé une nouvelle capitale. Il n'y a pas tout le monde dans Jérusalem, on s'en fiche, c'est plus notre problème. Donc la capitale du pays, ça va être Samarie. Et dans cette capitale, on va créer un temple. À partir de maintenant, ça va être le dieu tutélaire du pays, qui domine sur ce pays, et puis vous devez rendre un culte à ce dieu-là. Donc vraiment, là c'est carré. Il n'y a plus rien à voir, ni de près, ni de loin, en Israël, avec ce qu'il y avait dans le temps. C'est vraiment devenu un pays neuf. Spirituellement parlant, c'est un pays qui a changé du tout au tout, qui s'est complètement métamorphosé, qui n'a plus rien à voir avec son passé. Donc là, quand on parle d'Israël, il faut bien vous imprégner de ça et vous dire qu'à partir de maintenant, on est dans un pays exactement comme si on allait chez les Philistins. C'est comme si les hommes, si vous vous promeniez dans le pays, que vous sortez de Juda, où les gens adorent l'Éternel, et que vous alliez dans un pays où on ne connaît plus l'Éternel, où on ne sert plus l'Éternel, où les gens agissent comme on agissait dans les autres pays alentours. Ils se sont identifiés à eux, ils se sont décalqués sur eux, ils ont pris les mêmes habitudes, ils ont pris les mêmes dieux. Donc d'Israël, ne vous laissez plus abuser par ce nom, c'est-à-dire ne vous imaginez surtout pas que quand maintenant je lis Israël, c'est l'Israël dont on se souvenait dans le temps du roi David, où les gens, où les juges, où les gens connaissaient le Seigneur, où il y avait des Lévites, où les gens faisaient des péchés, commettaient des fautes, s'éloignaient de l'Éternel, mais où le Seigneur était quand même présent. Il y avait toujours encore à droite, à gauche, des idoles cachées, les gens. Mais le Dieu principal du pays, c'était quand même le Seigneur. Là, c'est plus le cas. Là, c'est fini, c'est terminé, c'est oublié, on n'en parle plus. Donc là, Akab construisit un temple en l'honneur de Baal, à Samarie, et dressa un autel. Donc, quand on construit un temple et qu'on dresse un autel, c'est qu'on fait des sacrifices. C'est pas comme un simple poteau, un arbre, une stèle ou un truc comme ça, où on met trois fleurs en dessous. Pas du tout. Quand on construit un temple, il y a tout un ensemble qui se crée. C'est-à-dire, là où il y a un temple, là où il y a un autel, il y a un clergé, il y a un rituel, il y a des règles, il y a des fêtes, c'est tout un ensemble, c'est un package complet. Il se passe la même chose qui se passait dans le temple à Jérusalem. C'est-à-dire, vous aviez des prêtres, des prêtresses, des jours de fête, des sacrifices, fallait obéir à des règles, fallait apporter de l'argent, etc., etc. C'est donc vraiment un culte nouveau qui s'était instauré dans ce pays. Le fait de construire un temple avec un autel, c'est pas une simple stèle qu'on met à quelque part. Faut bien vous mettre ça dans la tête. C'est très important. C'est essentiel. Construire un temple avec un autel, c'est changer de direction, c'est tourner le dos au Seigneur pour aller vers un Dieu nouveau et sacrifier un Dieu nouveau et différent. Donc, on se rend compte que chaque mot, ici, là, quand on avance, a son importance et qu'il faut se replonger dans le contexte de l'époque et remettre les choses à leur place. Ils sont donc là vraiment dans des choses très importantes, spirituellement parlant. Ce n'est pas des détails. Donc il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie, dressa un autel, et il érigea aussi, pour décorer tout ça, un poteau sacré à la déesse Asherah. Pourquoi ?
Poteau, c'est représentant de la vie, la femme.
Voilà. Donc nous avons Baal, elle, Baal, qui est le dieu principal chez les Philistins, et sa parèdre, c'est-à-dire sa contrepartie féminine, c'était Asherah, Astarté, la déesse, sa femme, son épouse. Donc, non, c'est son épouse. Oui, attention. Baal, je le répète, est un nom générique. C'est-à-dire, Baal, ça veut dire le maître, celui qui commande. Elle, c'est le nom, Baal, qu'on lui rajoute derrière pour dire c'est un dieu puissant, c'est un dieu qui commande. Son fils aussi, Melkart, avait aussi le Baal rajouté. Donc, dans la Bible, quand on dit Baal, ce sont les Baals, ce sont les maîtres, c'est-à-dire les dieux les plus importants. Il y avait tout un panthéon, c'est-à-dire il y avait la triade principale, et puis derrière, il y avait une myriade d'autres, des plus petits, dont on ne parle même pas. Mais c'était ces trois qui étaient les plus importants. Il y avait elle Baal, tu avais Asherah, et tu avais Melkart, Baal, qui était son fils, et puis derrière, toute une flopée de plus petits dieux. Mais les Israélites, quand ils parlaient de ce qui se passait à côté, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les gens qui ont écrit ces livres, c'était pas, après je ne dis pas les Israélites, les Juifs, quand ils ont écrit ce livre, c'était ceux de Juda qui ont écrit, c'était pas ceux de l'autre côté. Donc eux, ils voyaient ça un peu loin, et eux, ils ont dit que c'est les Baals, c'est les dieux étrangers, c'est les dieux qui dominaient dans ce pays-là. Et donc, nous avions le poteau d'Asherah. Donc, on se rappelle que, à l'origine, c'était un arbre qui était adoré comme l'arbre de vie. Et cet arbre, il a desséché, c'est devenu un tronc. Et alors, on a reproduit ce tronc à droite et à gauche en disant, ben voilà, ça représente la déesse. Et donc, une des représentations qu'on faisait de la triade phénicienne, c'était deux Béthil avec un poteau. Ou alors un Béthil, je vous rappelle, c'est une pierre dressée. La pierre dressée représentait le dieu masculin, et le poteau en bois représentait la déesse. Et donc on avait beaucoup de variantes comme ça. Un poteau, un béthyl, deux béthyl, deux béthyl, un poteau, enfin, pouvoir faire tout ça. Mais les gens savaient instantanément, en regardant ça, à quoi ça correspondait. Il y a, ici, on adore Asherah, ou ici, on adore Baal et Asherah, ou toutes les variantes étaient possibles. Mais là, en l'occurrence, à Samarie, le dieu principal, le dieu tutélaire, celui qui commandait sur la capitale, c'était Baal. Donc, le dieu masculin, le dieu des Sidoniens, le dieu des Philistins. Et on y avait rajouté, à côté, le poteau. On n'avait donc pas construit un temple dédié à Asherah, mais sa présence était symboliquement représentée par le poteau sacré. Donc, on avait mis dans ou à côté du temple. Par tous ces actes, Akab irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. On comprend bien que là, il avait fait la totale. Il pouvait difficilement faire pire que ça. C'est sous son règne qu'un certain Yel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram. Et lorsqu'on imposa les portes, son cadet Ségoub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Quand Moïse a conduit son peuple à travers le désert et qui s'est présenté devant Canaan, devant le pays promis, il a donc remis le commandement à Josué et il lui a dit, ben voilà, moi je ne rentrerai pas dans le pays, mais c'est toi qui vas rentrer dans le pays, c'est toi qui vas conquérir le pays. Et la première des conquêtes, la première des villes qu'ils ont prises, c'était la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, le Seigneur était intervenu directement, parce que ce n'est pas l'armée d'Israël qui a conquis la ville, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a conquis, dans le sens où, au son des trompettes, les murailles se sont effondrées, il n'y avait donc plus de défense de la ville, et puis les soldats, ils avaient juste besoin de rentrer dans la ville pour la piller, et a voué par interdit toutes les personnes qui habitaient dans ce pays-là, dans cette ville-là. Et l'ordre de l'Éternel, c'était « vous rasez tout ». Et donc la ville a été entièrement détruite, rasée. Et Josué, une fois que la ville a été rasée, il a dit « maudit soit l'homme qui un jour reconstruit cette ville, que son fils aîné qui bâtit les fondations meure, et que son second fils, lorsqu'il posera les portes, meurt aussi. » Et ça, c'était Josué, des siècles avant, qui avait proféré cette malédiction. Et donc là, du temps d'Akab, il y a donc un homme qui a eu l'idée géniale de se dire, on pourrait rebâtir la ville de Jéricho. Et au moment où ils ont commencé à construire la ville, la malédiction qui a été proférée des siècles avant par Josué s'est accomplie. C'est-à-dire, l'homme qui a fait cette ville-là, a vu ses enfants mourir. Donc là, il faut aussi être attentif, pas prendre à la légère les paroles d'un homme de Dieu lorsqu'il est inspiré par le Seigneur. Parce que ça peut être lourd de conséquences. Et c'est donc dans ce contexte, dans ce pays, totalement hostile au Seigneur, qu'il y a un bonhomme qui arrive, couvert de poils de chèvre. Personne n'a jamais entendu parler de cette personne, je ne sais même pas d'où il vient, qui il est. Et puis, cette espèce de vagabond se promène dans le pays et il se présente. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, va dire au roi d'Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est, et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. » Élie partit donc, et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et il se désaltérait de l'eau du torrent. Et au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas, J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Donc, je terminais avec ça. Là, un type qui arrive, quelqu'un d'insignifiant, dont on n'avait encore jamais entendu parler, d'inconnu, qui arrive de l'extérieur du royaume, d'une ville que personne ne savait même qu'elle existait, ça devait être un petit hameau perdu à quelque part dans les collines. Donc ce type, il arrive, un illustre inconnu, et se présente devant le roi, et il fait pas dans le détail. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, ce pays qui s'est détourné du Dieu d'Israël, ce Dieu qui a balayé la présence du Seigneur dans le pays, eh bien, ce pays, ce roi, qui maintenant avait instauré des nouvelles lois, qui avait mis un temple, une nouvelle capitale, qui avait fait ses règles, eh bien, un type qui vient et qui dit, eh bien, moi je suis envoyé par le Dieu de ce pays. Donc, l'Éternel considérait toujours encore Israël comme étant son pays. Et que ce qui s'y passait, c'était de l'usurpation. C'était du vol. On avait volé son héritage, on avait volé ses terres. Et donc, Élie vient et dit, je suis envoyé par le Dieu d'Israël. Ce Dieu que moi, je sers. Ce Dieu qui est vivant. Eh bien, ce Dieu d'Israël, ce Dieu de ce pays que je sers, qui est vivant, eh bien, il m'a dit une chose. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y aura plus de pluie pour les prochaines années. Il n'y aura même plus de rosée. On va se dire. Sauf si je le demande. Donc là, nous avons donc un homme qui est considéré comme un vagabond et qui prétend pouvoir faire ce qu'il veut dans le pays. Et cet homme ne dit pas « L'Éternel va arrêter les nuages » ou « L'Éternel va faire en sorte qu'il ne pleuve plus ». Non, non, non. Il dit « Il ne pleuvra plus, sauf si moi, je le demande. Ça dépendra de ma décision. Donc c'est moi, l'homme insignifiant, qui vient au nom de l'Éternel, qui te dit à toi, le grand roi, qu'il ne pleuvra plus sur le pays. Et il ne dit pas pourquoi. Il lui dit simplement que c'est fini, c'est terminé, il ne pleuvra plus. Alors Akab, a priori, il l'a écouté, et il a dit, il est complètement cinglé. Il est fou, cet homme est insensé. On a regardé déjà comment il est habillé. Élie était un homme qui était comme Jean-Baptiste. C'était lui qui n'avait rien d'ostentatoire sur lui. Il n'avait pas d'habit travaillé, il avait simplement une peau de chèvre. Alors, vous imaginez un peu le personnage. Quand on dit peau de chèvre, c'est tu tues une chèvre, tu racles les saletés qu'il y a dessus, tu tannes la peau, tu découpes un peu grossièrement le truc, et tu mets ça, t'imagines un peu, ça devait ressembler à une espèce de sauvage qui sortait de sa cambrousse, et c'est ce type-là qui vient se présenter devant le grand roi d'Israël, et qui vient, et puis qui lui dit, il pleuvra plus. Moi, le Seigneur m'a envoyé, et moi je te dis qu'il pleuvrait plus, et il pleuvra uniquement si moi je le dis. Dans le roi d'Israël, celui-là, il a un gros problème. Et puis, il n'a même pas tenu compte de son avis. Puis, il a dit, écoute, j'ai autre chose à faire que d'écouter un malade. Casse-toi, dégage, tutoir. On a une chose plus importante à faire que d'écouter les vagabonds divaguer. Oust. Seigneur lui a dit, très bien, tu as délivré ton message. Maintenant, tu pars. Tu t'éloignes. Tu vas au torrent de Kéry, et puis tu vas être nourri par des corbeaux, soit dit en passant que le corbeau était considéré comme un animal impur. Donc là, on est vraiment dans une situation où le Seigneur prend un biais, où toutes les règles vont être bouleversées. Alors déjà, on est dans un pays qui s'est détourné du Seigneur, et le prophète de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, va maintenant être conduit dans des sentiers qui sont des sentiers qui sont totalement inhabituels. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un pays totalement hostile où les gens ne respectent plus aucune règle, où plus rien n'est fait selon les lois du Seigneur. Et donc là, il y a une adaptation qui se fait. Il dit, puisqu'on est dans un pays impur, eh bien, tu vivras sur le dos de toutes ces impuretés. C'est-à-dire, tu resteras dans le pays et tu devras subir les conséquences de toutes ces impuretés. Mais moi, je pourvoirai à tes besoins, je subviendrai à tes besoins, même si c'est des choses impures, eh bien, accepte-les comme étant un don que moi je te fais. Ce sont des corbeaux qui sont déclarés impurs dans ma loi, mais moi, je dis qu'ils te nourriraient. Et puisque c'est moi qui ai dit qu'ils te nourriraient, eh bien, la nourriture de ces animaux impurs est sanctifiée. Cette nourriture, à partir de maintenant, je la considère comme pure, parce que c'est sur mon ordre qu'ils agissent. Et après ça, une fois que le torrent était tari, et qu'il n'y avait plus d'eau, l'Éternel lui dit, bon, maintenant tu vas à Sarepta. Va à Sidon, au cœur du mal, dans le pays des Philistins, là d'où est venu le problème, l'origine, la source de la corruption du pays d'Israël. Ce pays qui a influencé, ce pays qui a séduit et qui a corrompu les enfants d'Israël. Maintenant, tu vas là-bas, au cœur du royaume, tu t'installes et tu attends. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Vous avez maintenant un petit aperçu, enfin petit aperçu, on a maintenant bien vu les deux évolutions, celle qui s'est faite en Juda, avec des rois qui se sont succédés, qui ont suivi plus ou moins le Seigneur, et puis le Seigneur est intervenu, et puis ça s'est relativement bien passé dans le royaume du Sud. Il y a donc eu la dégradation continuelle qui graduellement prenait de l'ampleur jusqu'à arriver à Akkad où on est rentré dans une situation qui est une situation où on a fait un demi-tour à 180 degrés et qu'à partir de maintenant, on s'éloigne du Seigneur, on se rapproche plus de lui, on ne marche plus avec lui. Et c'est un contexte tout à fait nouveau, avec des personnages tout à fait nouveaux et des pratiques tout à fait nouvelles qui vont se mettre en place. Là, on ne discute plus, on agit. C'est-à-dire, on arrive, on dit, on ne dit pas tu as péché, si tu te repens, non, on arrive, on dit, il ne pleut plus. Et on part. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion. On agit. Le glaive de l'Éternel frappe une première fois. Donc, un premier coup a été porté par le Seigneur. Après, l'histoire va continuer et va aller crescendo et ça va barder toujours plus. Très bon, ça c'est la suite.